Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, les bureaux de vote seront ouverts à tous les électeurs, même ceux qui sont positifs au Covid. Dans un instant, les détails du protocole sanitaire de l'élection présidentielle. La Russie ne tient pas ses promesses de désescalade en Ukraine. Au contraire de ses négociateurs hier, Moscou n'a pas vu de progrès dans les pourparlers avec Kiev. Il pourrait bien s'agir d'un nouveau scandale sanitaire. Des pizzas surgelées Buitoni sont bien responsables de contamination bactérienne. Des dizaines d'enfants sont atteints. Un public record au Parc des Princes ce soir en Ligue des Champions féminine. PSG Bayern, on sera sur place en fin de journal. La météo de demain, plongeons des températures, l'hiver qui revient sur la moitié nord. L'invité éco à 22h20, je recevrai Benoît Dorufret, PDG du groupe Eiffage et président de Fondact. Il viendra vous détailler ses propositions pour développer l'épargne salariale. Et puis juste avant la libre antenne sur Europe 1, premier coup d'œil aux unes de la presse demain matin.
Europe 1.
Le Covid ne vous empêchera pas d'aller voter. Le gouvernement a dévoilé le protocole sanitaire pour l'élection présidentielle. Premier tour dans 11 jours. Même si vous êtes positif au Covid, vous pourrez aller voter, Victor Chabert, et aucun pass ne sera demandé.
Oui, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a confirmé.
Pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédant le vote, elles pourront aller voter. Évidemment, nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela. C'est un appel à la responsabilité individuelle puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire, de passe vaccinal ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l'entrée des bureaux de vote. Mais de la même manière que cela s'est fait dans les élections précédentes, il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections.
Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais fortement conseillé pour les personnes à risque. Elles devront cependant le baisser brièvement pour le contrôle d'identité. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Le bureau de vote aéré 10 minutes toutes les heures. Le matériel régulièrement désinfecté. Pour les personnels présents dans les bureaux, présidents, assesseurs et fonctionnaires, des autotests seront mis à disposition. S'ils sont positifs, ils devront alors s'isoler. Il va donc falloir prévoir des remplaçants. Et c'est une question complexe, alors qu'il est déjà difficile pour beaucoup de communes de trouver le nombre minimum d'assesseurs nécessaires pour chaque bureau.
Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Nous vivons désormais le plus clair de notre temps sans masque, mais le virus est toujours parmi nous. Il circule au rythme de 200 000 nouveaux cas par jour. Le sénateur Bernard Jomier est aussi médecin. Il préside la mission d'information Covid et il souhaite rassurer. Plus question d'y voir ici une sixième vague, c'est simplement une autre épidémie.
Dire que c'est une sixième vague signifierait que c'est le même virus avec les mêmes conséquences. Il faut s'adapter au virus. Le virus, il a changé. Ça n'est plus le même. Et il faut adapter aussi nos réactions. Et donc, il est logique qu'on n'arrête pas la vie de la société, qu'on ne prenne plus des mesures dures et strictes. Ce nouveau virus impacte clairement beaucoup moins les hôpitaux puisque à 100 000 ou 150 000 ou 200 000 cas par jour, on n'a pas la saturation qu'on avait, je le rappelle, avec quelques dizaines de milliers de cas par jour lors des vagues précédentes. Ça montre deux choses, que la vaccination nous protège bien contre les formes sévères et deuxièmement que ce virus n'est plus le premier virus et donc il faut nous s'adapter à ce virus. Et donc maintenant il faut protéger les plus fragiles et il faut que la société continue à vivre. L'heure n'est plus à l'arrêt des activités sociales.
Le sénateur Bernard Jomier avec François-Xavier Rigaud. À 11 jours du premier tour, il y a toujours ce parasite qui encombre la campagne d'Emmanuel Macron. Ce parasite, c'est la polémique sur les cabinets de conseil. Le gouvernement y a souvent eu recours. Deux problèmes soulevés par un récent rapport du Sénat. Un, le gouvernement est accro à ses services coûteux de consultants. Et deux, dans le cadre du cabinet McKinsey, ce cabinet n'a pas payé d'impôts en France depuis au moins 10 ans. Un signe qu'il y a bien un départ de feu à éteindre, deux ministres de Bercy, Olivier Dussopt et Amélie de Montchalin, ont tenu ce soir une conférence de presse, Arthur Delaborde, pour couper court aux attaques des autres candidats.
Oui, une séance d'explication d'une heure et quart pour montrer que le gouvernement prend le sujet très au sérieux. Amélie de Montchalin a d'emblée dénoncé une campagne qui charrie son lot de désinformation et de polémiques, tout en assumant le recours au cabinet de conseil, notamment pendant la crise sanitaire.
Oui, comme tous ceux qui nous ont précédés, et dans le cadre strict des règles de la commande publique, nous avons eu recours à des cabinets de conseil. Mais est-ce que, oui ou non, l'État lésine sur les moyens quand il s'agit de protéger les Français? La réponse est non.
La pratique s'est généralisée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, a assuré Amélie de Montchalin, qui a pris soin de ne jamais prononcer le nom de l'ancien président de la République. Olivier Dussopt a lui aussi dénoncé les fake news propagées par les adversaires d'Emmanuel Macron. Il a bien reconnu 893,9 millions d'euros de dépenses auprès des cabinets de conseil l'année dernière. Tout en minimisant l'ampleur, cela représente selon lui 0,3% de la masse salariale de l'État, devenu le symbole du scandale. Le cabinet McKinsey n'a bénéficié, selon le ministre du Budget, que de 5% du total des dépenses de ce type.
Arthur Delaborde. Voyons maintenant la situation en Ukraine. Ce mercredi ressemble à un château de cartes qui s'écroule. Contrairement aux espoirs qu'ont fait naître hier les négociateurs ukrainiens et surtout russes, il n'y a rien de prometteur dans les pourparlers, estime aujourd'hui Moscou. Aucune percée, a constaté à son tour Jean-Yves Le Drian, le patron du Quai d'Orsay. Pas de percée, pas de progrès, on comprend mieux alors pourquoi Moscou n'a pas tenu sa promesse de réduire son offensive en Ukraine. Dans le nord du pays, Caroline Baudry, la ville de Tchernigiv a été bombardée toute la nuit dernière.
Oui, la situation ne change pas, affirme ce matin sur Telegram le gouverneur de la région de Tchernigiv. Dans la ville, les habitants restent sans eau, sans électricité, avec des communications coupées et sous les bombes.
Sa prétendue baisse d'activité dans la région de Tcherniv, l'ennemi l'a bien démontré, en frappant la ville de Nizhyn, notamment des frappes aériennes. Ils ont fait feu sur la ville de Tcherniv toute la nuit. Des infrastructures civiles, des bibliothèques et des centres commerciaux ont été à nouveau détruits.
Vous le disiez, Moscou s'était pourtant engagé à réduire les bombardements, comme à Kiev, mais dans le nord-ouest de la capitale. La ville d'Irpin, par exemple, libérée des Russes lundi, reste cible de bombardements. Notre envoyé spécial Nicolas Tonev a rencontré le maire pour Europe 1.
Irpin est contrôlée par notre armée. Mais Irpin est dangereuse. Nous sommes sous le feu en permanence des mortiers, de l'artillerie longue portée, des tanks et des mitrailleuses.
Le maire appelle les habitants d'Irpin qui ont fui ces derniers jours à ne pas revenir dans la ville pour le moment. 200 personnes y sont mortes depuis le début du conflit.
Caroline Baudry, et selon des observations ce soir du Pentagone, les Russes commencent à se retirer de la centrale de Tchernobyl. Plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens ont désormais fui leur pays 5 semaines après le début de la guerre. C'est sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU estime que les attaques en Ukraine pourraient être des crimes de guerre. Vladimir Poutine, lui, recule sur le gaz russe. Après avoir exigé d'abord un paiement en roubles exclusivement, il assure au chancelier allemand Olaf Scholz que l'Europe peut continuer à payer le gaz russe en euros. Vladimir Poutine, mal informé par son entourage de la situation en Ukraine, c'est ce que croit savoir le renseignement américain. Ses conseillers auraient peur de lui révéler la réalité des pertes militaires en Ukraine, mais aussi des pertes économiques subies par la Russie. Le président russe serait donc induit en erreur sur les mauvaises performances de son armée.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
C'était l'une des journées les plus attendues au procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam, interrogé aujourd'hui sur la nuit des attentats. Après s'être muré d'abord dans le silence ce mercredi, le seul survivant des terroristes a finalement accepté de répondre à une avocate des parties civiles, Gladys Laffitte. Abdeslam redit avoir renoncé à faire sauter sa ceinture explosive.
Ah oui, dans un moment suspendu, Salah Abdeslam a finalement décidé de se livrer un peu après des questions presque intimes sur sa fiancée venant d'une avocate de partie civile extrêmement douce. Alors l'accusé lui a livré sa version en pesant chacun de ses mots. Il avait prévu de partir en Syrie ce mois de novembre et ce n'est que le 11 que son aîné, Brahim Abdeslam, lui apprend qu'Abdelhamid Abaoud, coordinateur des attaques, est en Belgique. Le 12 novembre, il se voit dans une planque. C'est le basculement, dit Salah Abdeslam. Donc vous acceptez une telle décision, ça se mûrit, non ? Lui demande l'avocate. Apparemment non, justement, car je n'ai pas été jusqu'au bout. J'ai renoncé à enclencher ma ceinture, pas par lâcheté, pas par peur, mais je ne voulais pas, c'est tout. Alors pourquoi vous dites à vos amis que ça n'a pas marché ? C'est un mensonge ? L'accusé hausse les épaules, sourit derrière son masque noir et finit par lâcher. J'avais honte, j'avais peur du regard des autres, j'avais 25 ans aussi. Il n'en dira pas plus, malgré le flot de questions qui lui ont été posées aujourd'hui.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre pour Europe 1. On apprend ce soir qu'une fusillade a fait au moins deux morts dans un McDonald's du nord des Pays-Bas. Un tireur a ouvert le feu dans la salle du restaurant. Des témoins évoquent une attaque ciblée. L'assaillant est en fuite. À Sevran, en Seine-Saint-Denis, le policier à l'origine du tir mortel contre un jeune homme lors d'un contrôle a été placé en garde à vue. La mort de ce chauffeur livreur samedi dernier a provoqué quatre nuits de violences consécutives à Sevran, Aulnay et Tremblay, où un important dispositif de sécurité a été déployé. L'enquête est confiée à l'IGPN, la police des polices. Presque un mois maintenant après l'agression d'Ivan Colonna à la prison d'Arles, le directeur de l'établissement livre ses premières explications publiques. Marc Ollier a été auditionné ce mercredi à l'Assemblée. Il est revenu sur les circonstances de cette agression mortelle. Pour expliquer son geste, on sait que le co-détenu de Colonna, radicalisé, aurait mentionné un blasphème. Écoutez la réponse du directeur de la prison, débordé par l'émotion.
Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe. Colonna aurait dit aussi, ça je pense que c'est vrai, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. Excusez-moi, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Donc il voulait se payer quelqu'un de connu. Excusez-moi, je suis ému parce que je connaissais pas Colonna, mais c'est un être humain, quoi. C'est... Bon, voilà.
Un témoignage devant la commission des lois à l'Assemblée nationale de Marc Ollier, le directeur de la prison d'Arles. Il existe bien un lien entre des pizzas surgelées Buitoni et plusieurs cas graves de contamination par la bactérie E. coli. Lien établi par les autorités sanitaires, des dizaines d'enfants sont tombés malades. Deux ont perdu la vie, sans lien ici avec les pizzas. Johan Tritz, vous avez recueilli des témoignages édifiants.
Oui, j'ai pu contacter une mère de famille. Son fils de 4 ans, Yatis, a dû se rendre en urgence à l'hôpital d'Amiens. Après avoir mangé deux fois de ses pizzas, il a été contaminé et a développé un syndrome hémolytique et urémique dit CHU. Il a failli perdre l'usage de son rein. Sa maman, Liline, raconte.
On ne comprend pas ce qui se passe, hélicoptère, réanimation. J'arrive à l'hôpital, je le rejoins, on me dit que mon fils il est atteint d'un CHU. Et là, on m'explique que ses reins ne fonctionnent plus, qu'on va devoir les remplacer par une machine. On espère que ses reins refonctionneront, mais que ça risque de prendre beaucoup de temps. Mon fils, il a subi sa 4e opération. Il a reçu 2 transfusions sanguines aussi. Et il y a le professeur qui est venu me voir un soir en me demandant si mon fils, par hasard, aurait consommé ces fameuses pizzas. On les avait consommées à 2 fois d'intervalle. C'est grave ce qui se passe. Ça touche beaucoup d'enfants et ça devrait pas arriver.
Aujourd'hui, 75 cas, dont 41 graves, ont été identifiés en France. Liline, comme d'autres familles, ont décidé de porter plainte. L'entreprise Buitoni a retiré tous ses produits en rayon et arrêté 2 chaînes de production. Elle tente de trouver la provenance de la contamination, mais sans succès pour l'instant.
Et Johan Tritz, les pizzas en cause sont les Fresh Up de la marque Buitoni. Détruisez-les sans délai si vous en avez. Au moindre symptôme après en avoir mangé, il faut impérativement consulter. L'heure est venue de lever le pied dans les rues de Lyon, presque toutes les rues de Lyon. Depuis ce matin, la vitesse maximale est autorisée descend à 30 km/h. Le maire écologiste Grégory Doucet souhaite améliorer la qualité de l'air, mais d'abord la sécurité routière. Reportage Jean-Luc Boujon.
Depuis ce matin, les panneaux zone 30 ont fleuri un peu partout à Lyon. Idem pour le marquage au sol. Impossible donc d'ignorer que 30 km/h est désormais la vitesse maximale autorisée dans 85% des rues de la ville. Seuls quelques grands axes comme les quais du Rhône restent limités à 50. Une restriction qui ne ravit pas la majorité des automobilistes.
Je trouve que c'est complètement nul. Ça sert à rien du tout.
Je suis pas forcément pour. Il y a déjà certaines zones où c'était tellement embouteillé qu'on était déjà à 30. Mais là, à 30, ça devient compliqué, quoi.
On va se traîner.
C'est ça.
Les 30 km/h, je ne sais pas s'il y a un vrai impact sur la pollution. Je ne sais pas si ça va améliorer les choses.
Pourtant, ce n'est pas sur la pollution que veut agir le maire Grégory Doucet, mais beaucoup plus sur l'accidentologie.
À 50 km/h, on a pas loin de 90% de chances de décéder dans un accident, alors qu'à 30 km/h, on n'a que 10 à 20% de chances de décéder. Donc notre objectif est véritablement de sauver des vies.
Et effectivement, les piétons comme Camille y sont favorables.
Oui, moi j'ai tendance à dire que c'est une bonne chose. Moi je fais tout à vélo, donc je trouve que c'est plutôt rassurant. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'il y a d'autres moyens de se déplacer en ville qu'à voiture, donc c'est plutôt bien.
L'objectif dans un second temps, c'est effectivement d'orienter les automobilistes vers le vélo, la trottinette ou les transports en commun. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
C'est un record pour la Ligue des champions féminine. 27 000 spectateurs et spectatrices assistent ce soir à PSG Bayern au Parc des Princes. Vous en faites partie, Cédric Chasseur. Quart de finale retour. Les Parisiennes avaient gagné 2-1 à l'aller. Ce soir, elles sont un peu en difficulté, Cédric.
Oui, tout est à refaire dans cette confrontation entre le Paris Saint-Germain et Bayern, puisque ce sont les Allemandes qui mènent 2-1 depuis quelques instants seulement. C'était pourtant le PSG qui avait ouvert le score avec Sandy Baltimore à la 17e minute. L'ancienne joueuse de Lyon, Saki Koumagaï, avait égalisé 2 minutes plus tard pour le Bayern. Et puis, il y a quelques instants, sur une frappe détournée à l'entrée de la surface de réparation qui a pris à contre-pied la gardienne parisienne, et bien c'est Boule qui a marqué ce deuxième but. On se dirige donc tout droit vers une prolongation si le score en reste là, puisque comme chez les hommes, la règle du but à l'extérieur a été éliminée. Et bien si on en reste là, les deux équipes seraient à égalité, 3 buts partout sur l'ensemble des deux matchs, et donc on irait vers 30 minutes supplémentaires. Mais il reste encore un petit peu de temps à jouer, hein. Il reste une grosse demi-heure pour départager ces deux équipes et espérer, pourquoi pas, un dénouement heureux pour le Paris Saint-Germain. 2-1 donc pour le Bayern, et il reste un tout petit peu plus d'une demi-heure à jouer.
Cédric Chasseur, PSG Bayern en direct du Parc des Princes, quart de finale retour de la Ligue de Champions féminine. L'acteur américain Bruce Willis met fin à sa carrière. La superstar âgée de 67 ans souffre d'aphasie. C'est ce qu'a annoncé sa famille sur Instagram. Il s'agit d'un trouble de la communication qui provoque une perte de la capacité à parler ou à comprendre le langage, conséquence d'une lésion cérébrale. Bruce Willis, tête d'affiche de dizaines de films, de la série Die Hard à Expendables, en passant par Pulp Fiction, Le Cinquième Élément, Sixième Sens et tant d'autres. L'Académie des Oscars s'engage à ne pas laisser passer la gifle de Will Smith à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie de remise des prix et sous les yeux de millions de téléspectateurs. Les mesures appropriées seront prises contre l'acteur, annonce l'Académie. Will Smith récompensé peu après cet incident de l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams. Le temps pour demain, Marlène Duret. Si on est au nord de la Seine, alors là c'est le retour de l'hiver. Hein.
Oui Alexandre, les températures qui étaient déjà à la baisse aujourd'hui vont, et qui étaient passées souvent en dessous de 15 degrés, vont continuer à chuter demain et surtout vendredi, au point de prendre un caractère franchement hivernal, comme on dit. Alors déjà, demain, on va le sentir à Lille, 1 degré le matin.
Ouf,
ah oui. Oui, oui, déjà le matin, 7 l'après-midi, ce qui nous fait 5 degrés de moins par rapport à aujourd'hui. Rouen perdra 7 degrés, il ne fera plus que 6 au meilleur de la journée. À Paris, 8. Les maximales varieront généralement entre 7 et 11 dans le nord, jusqu'à 12 à Dijon. Et puis compter un peu plus en allant vers le sud-ouest et les Alpes, 11 à 14. Et encore 15 à 20 près de la Grande Bleue, 20 à Marseille, ça reste encore doux par là-bas. Alors une perturbation va traverser le pays, poussée par un vent de nord qui va renforcer d'ailleurs cette sensation de froid au nord de la Seine. Des pluies faibles vont circuler de la Bretagne à la frontière belge, en passant par les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France. Ces pluies vont gagner en journée les régions allant du Massif central à l'Auvergne. Elles seront un petit peu plus marquées. Et puis, au contact de l'air froid, ces pluies, elles vont se transformer en neige, un grand classique. Elles vont passer au stade de neige, quelques centimètres attendus dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie, vers les Ardennes, sans forcément tenir au sol, notamment dans les zones urbaines. Et c'est surtout dans la nuit de jeudi à vendredi que ces chutes de neige devraient s'intensifier. La prévision, si elle se confirme, la neige pourrait tomber entre, on va dire, les Hauts-de-France et l'Auvergne, grosso modo. Mais on n'en est pas trop sûr parce que les modèles de prévisions ne convergent pas tous dans le même sens.
Bon.
Météo France a privilégié la voie de la neige, mais on n'est sûr de rien. Je vous fais une réponse de Normand, mais bon, a priori, il devrait neiger dans les régions du Nord et puis même autour, allez, on va dire Champagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Auvergne. Et peut-être que je dois m'arrêter là, c'est ça, non,
non. C'est juste que vous nous déprimez. Mais bon.
Cet épisode neigeux va durer jusqu'à samedi, retour au calme dimanche. Et les températures remonteront à nouveau à partir de la semaine prochaine. On va revenir à des niveaux de saison.
Bien, de la neige au mois d'avril, tout va bien. Merci Marlène Duret, nouveau point avec vous sur Europe 1 à minuit.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Claire, après 4 séances de hausse, la bourse de New York marque une pause. Ce soir, les espoirs déçus d'avancer dans le conflit en Ukraine ont pesé sur les marchés.
Oui, l'optimisme d'hier avec l'annonce de progrès dans les discussions entre la Russie et l'Ukraine n'est déjà plus d'actualité. Petite baisse pour le Dow Jones, moins 0,19%, 35 228 points. Le Nasdaq, lui, perd un peu plus de 1%, moins 1,21%. 14 14 442 points. Autre réaction aux espoirs déçus d'une issue diplomatique et d'un cessez-le-feu, eh bien le pétrole remonte. Le brut léger américain WTI reprend 2,6% à 107 dollars. Les géants du secteur en profitent. ExxonMobil monte de 1,7%. Chevron plus 0,7%. C'est plus compliqué ce soir pour les valeurs technologiques et notamment les fabricants de puces. Micron Technologies perd 3,5% après ses résultats trimestriels. Son concurrent Qualcomm chute même de plus de 5%. Et puis c'est du rouge aussi ce soir pour Apple et pour Tesla.
L'inflation a accéléré en mars en Allemagne et en Espagne. De quoi faire spéculer les investisseurs sur des hausses de taux de la BCE.
Oui, un bond spectaculaire à 7,6% sur un an en mars en Allemagne. L'inflation est au plus haut depuis 1981 dans le pays. Cette hausse, elle s'explique par l'envolée des prix du pétrole et du gaz avec l'inflation de l'Ukraine par la Russie. Les marchés spéculent sur une remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne cette année pour lutter contre cette envolée de l'inflation. Alors l'euro réagit, il grimpe encore de 0,7%, 1,1160. La devise avait déjà bondi de 1% hier, soutenue par les espoirs, même furtifs, d'un cessez-le-feu en Ukraine.
Marche arrière toute pour le CAC 40 qui a perdu lui aussi une partie de son optimisme à propos de la guerre en Ukraine.
Moins 0,74% pour l'indice parisien qui termine à 6741 points. On a des prises de bénéfices sur les valeurs qui ont le plus brillé hier. Renault, par exemple, avait grimpé de plus de 11%. Le titre du constructeur qui est présent en Russie repère 3,8%. Renault qui pourrait d'ailleurs transférer la propriété de sa participation majoritaire dans Avtovaz, un investisseur russe pour quitter le pays. Information de l'agence Bloomberg. C'est du rouge aussi pour le reste du secteur. Valeo, moins 6,4%. Et l'action Faurecia chute de 8,5%. Ailleurs en Europe, les marchés ont marqué une pause ce soir, à l'exception de Londres qui gagne 0,5%. Pour Francfort, c'est un repli de 1,4%. Moins 0,7% pour Madrid. Milan est stable. Et le CAC 40 perd 0,7%. 6741 points.
Merci, Claire Lemaître. Nous sommes au beau milieu de la semaine de l'épargne salariale. Intéressement, participation, mais pas seulement. On en parle ce soir sur Europe 1. Notre invité éco ce mercredi est un grand patron. Bonsoir, Benoît Druffray.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG d'Eiffage, l'un des plus gros groupes français de BTP, plus de 70 000 collaborateurs, des réalisations emblématiques, le viaduc de Millau, la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-Loire, pour ne citer que. Mais vous êtes aussi, et c'est la raison de votre présence ici ce soir, le président de Fondact. À la tête de Fondact, Benoît Druffray, vous militez pour le développement de l'épargne salariale. Alors, vous allez peut-être nous expliquer d'abord, qu'est-ce que Fondact ?
Oui, tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Fondact, oui, c'est une association indépendante. Je crois que globalement, on regroupe toutes les entreprises qui sont finalement convaincues, mais vraiment convaincues des vertus du partage, de la création de valeur avec leurs salariés. On est une centaine d'adhérents, vous avez des entreprises de tailles très différentes, des sociétés de gestion, des cabinets de conseil, des syndicats professionnels. Nos valeurs, c'est la liberté et le dialogue, et vraiment au cœur de toutes nos actions, c'est ce partage de la valeur.
Donc, vous dites aujourd'hui, Benoît Druffray, trop peu de salariés, en réalité, bénéficient dans leur entreprise d'épargne salariale. Il faut la développer.
Oui, je crois qu'il faut la développer, parce que derrière l'épargne salariale, bien sûr, il y a beaucoup de mécanismes. En amont, on a tous ces mécanismes de partage des profits. Vous avez parlé, bien sûr, de la participation, bien connue depuis tant d'années, mais aussi l'intéressement, les versements volontaires, l'abondement. Et tous ces dispositifs, finalement, ils irriguent partout, à travers de l'action à un salarié, des plans d'épargne entreprise, mais aussi des plans d'épargne retraite collectif. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous regardez l'épargne salariale, il n'y a que 13% qui est placé en monétaire, donc il y a vraiment un financement du fonctionnement de l'économie. Mais il y a aussi, et ça c'est très important, des actionnaires de long terme. Et je crois que c'est très important pour le développement de l'économie de notre pays.
Alors, ce qu'on entend par épargne salariale, en effet, c'est l'intéressement et la participation. On a tendance souvent à confondre, d'ailleurs, si vous pouvez nous rappeler la différence entre les deux, intéressement et participation.
Mais oui, fondamentalement, la participation, elle s'impose à tout un tas de sociétés à partir d'une certaine taille. Elle est inscrite dans la loi. Alors que l'intéressement, c'est au cœur du dialogue de l'entreprise, du dialogue social, puisque ensemble, en fait, on va définir un projet. On va lui donner des paramètres. Et après, si on le réussit, on va partager les fruits de cette réussite. Et ça, c'est, je trouve, un élément excessivement moteur de la participation des salariés à la réussite de l'entreprise.
Alors, ouais,
allez, et je dirais, si on va encore plus au-delà, bien sûr, l'intéressement, on partage un résultat, c'est plutôt du moyen terme, court terme, moyen terme. Et quand on va beaucoup plus loin, eh ben, on partage la propriété. Et donc, c'est l'action à un salarié. Et là, bien sûr, c'est le très long terme.
Alors, intéressement et participation, en tout cas, dans les entreprises de taille moyenne et grandes entreprises, on connaît en général, on est souvent familiarisé avec ces notions. Ce sont les mécanismes les plus connus, mais ce ne sont pas les seuls. Il en existe d'autres. Hein. Je pense au PEE, le plan d'épargne entreprise, au PER, le plan d'épargne de retraite. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, globalement, en fait, ces plans d'épargne entreprise, ces plans de retraite collectifs, ce sont, une fois que vous collectez les fonds, en fait, dans quels instruments vous les faites pour qu'ils vivent dans la durée. Et il y a aussi des plans d'épargne inter-entreprise. Donc là, on évite de mettre tout dans la même entreprise, puisque c'est des plans qui sont mis à disposition. Aujourd'hui, il y a plus d'un salarié sur deux hein, qui peut avoir ces dispositifs qui sont mis au sein des entreprises. Mais je pense qu'on a intérêt à le faire connaître, à le développer, puisque c'est excessivement vertueux.
En quelques mots, PEE et PER, comment ça fonctionne exactement ?
Vous collectez, et à ce moment-là, il y a parfois des versements volontaires, il y a aussi des abondements des entreprises, donc des accès avec des conditions particulières pour être dans l'épargne d'une entreprise et participer à son capital, par exemple.
L'idée que vous défendez, Benoît de Ruffray, à la tête de Fondacte, c'est que l'épargne salariale, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Tout le monde s'y retrouve, à la fois l'employeur et les collaborateurs.
Bien évidemment, puisqu'en fait, d'abord, vous favorisez le dialogue social. Après ça, vous allez partager des objectifs communs. Et quand on gagne ensemble, eh ben, on partage le fruit de ce qu'on a gagné. Et derrière, je milite aussi beaucoup à l'heure de la responsabilité sociétale de l'entreprise qu'on comprenne en fait qu'on associe les salariés, on donne du sens à ce qu'ils font, ils en font partie. Et je crois que ces mécanismes d'épargne salariale devraient être totalement reconnus à leur juste valeur quand on parle de notation RSE, de critères RSE, puisque fondamentalement, le S va être touché puisque vous associez l'ensemble des gens qui vont créer la valeur dans l'entreprise. Et puis derrière, il y a aussi le G, parce que quand vous participez à un projet, vous l'avez discuté ensemble, donc vous êtes dans sa gouvernance. Et quand vous allez jusqu'au Graal, qui est l'action à un salarié, bah vous êtes même influent sur la gouvernance de l'entreprise. Et plus les salariés sont impliqués, plus forcément le développement de l'entreprise va tenir compte du développement de l'emploi. Oui, c'est vraiment du win-win. Je pense que c'est un trésor caché. Sous-utilisé de la performance de nos entreprises.
En clair, c'est une source de motivation pour les salariés, une source de fidélisation du point de vue de l'employeur de ses propres salariés, et pour les salariés, une source de motivation, bien évidemment.
Et je vais plus loin, nous avons tout un tas d'études économiques qui le montrent, donc on n'est plus là en train de découvrir, on a des outils, bien sûr on peut encore les optimiser, je pense notamment à la réduction du forfait social pour les rendre encore plus efficaces, mais aussi... participer à les faire connaître au plus grand nombre. On a des petites entreprises qui sont membres de Fondacte. La seule chose que je peux vous dire, c'est quand on y goûte, en fait, en tant que chef d'entreprise, on ne peut plus s'en passer.
On ne peut plus s'en passer.
Absolument.
On est dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Alors, avec votre association Fondacte, justement, vous adressez des propositions aux candidats, Benoît de Ruffray, très, très concrètement, pour développer l'épargne salariale. Il faut faire quoi ?
D'abord, il faut en parler. Et je vous remercie. Parce qu'on peut en parler
avec
ensemble,
plaisir.
Et ça c'est très important. Il faut optimiser, il faut simplifier. Ça a déjà été beaucoup fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les lois de 2015, la dernière loi PACTE 2019, et on voit que ça a porté ses fruits, parce que quand le politique s'en saisit, bien évidemment on a eu une grande progression. On peut noter aussi que le Covid, même pendant le Covid, l'épargne salariale elle s'est développée, parce que les gens en sont convaincus, mais on peut toujours mieux faire. Je pense qu'il faut encourager ce partage de la valeur, à l'heure où il y a beaucoup de débats sur finalement la partie de cette valeur qui repart au travail versus celle qui va sur le capital, je crois que ces objectifs et ces outils d'épargne salariale et l'action à un salarié donnent de la culture économique à l'ensemble des gens de l'entreprise, donnent des objectifs en commun et c'est ensemble qu'on progresse et je pense que c'est quelque chose qui donne beaucoup de qualité au dialogue social dans l'entreprise. Donc il faut continuer le promouvoir. Après, gardons à l'esprit qu'il faut donner la liberté du choix. Le meilleur outil pour l'entreprise, c'est sur le terrain, c'est dans le dialogue social de proximité, ou alors aussi dans les branches qui se fait. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous aider à les faire connaître et faire savoir.
À l'occasion de cette semaine de l'épargne salariale, merci beaucoup Benoît Druffray d'avoir été avec nous, PDG d'EFAGE, président de Fondact, association d'entreprises pour le développement de l'épargne salariale. J'ajoute deux sites pour tout savoir et tout comprendre, fondact.org et épargne-salariale-france.fr.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À la une de vos quotidiens demain jeudi 31 mars, jusqu'où ira Marine Le Pen, s'interroge l'opinion. Une victoire est-elle à portée de main pour la candidate RN ? Aujourd'hui, cela devient improbable, mais pas impossible, résume un observateur. Le Pen, elle est là, confirme Libération, qui écrit à la une, en menant une campagne sans bruit et sans fureur, aidée par les embardés de Zemmour, la candidate d'extrême droite apparaît aujourd'hui plus dangereuse que jamais. Voilà pour les commentaires de Libération. Le Figaro, la Russie s'enfonce dans l'isolement et les sanctions. L'impact des représailles internationales à l'invasion de l'Ukraine commence à être ressenti par la population russe, même s'il ne semble pas de nature à faire bouger les lignes politiques. Enfin, la Croix vous propose une enquête sur les amis de la Russie en France. Parmi les personnalités pro-russes du monde politique, universitaire ou religieux, eh bien rares sont celles, écrit La Croix, qui ont changé de discours depuis le début de la guerre. 22h30, vous êtes sur Europe 1 et c'est l'heure de retrouver, comme chaque soir, la Libre Antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
Vous êtes, est-ce que vous êtes bien installé ?
Écoutez, oui, je serai mieux installé dans quelques secondes quand je vais récupérer ma place.
Exactement, que je vais vous laisser.
Vous avez remarqué que je n'aime pas jouer à l'aile, moi, je suis plutôt avant-centre.
Ah oui. Donc, bah, c'est là où vous êtes le meilleur. Hein.
Je ne vous fais pas dire.
Je crois. Hein.
Bah, écoutez, c'est vous qui le dites.
Sans vouloir vous flatter.
Hein. Bah, écoutez, je le prends en tout cas avec beaucoup d'humilité.
Voilà.
Bon, vous avez l'air d'être en pleine forme.
Mais oui.
Bon, l'actu est bonne, ça va tout...
Toujours très riche.
Bon, bah, écoutez, au moins il y a du travail.
Oui.
On se retrouve tout à l'heure à 23h pour votre flash.
À tout à l'heure.